Europe 1, il est 7h.
Pour nous tous, c'est terrible. On reprenait goût à la liberté et voilà que tout ferme à nouveau.
Plus de 600 000 Allemands se retrouvent reconfinés, deux cantons concernés à cause des contaminations dans un abattoir. Emmanuel Macron reçoit les partenaires sociaux cet après-midi. Nicolas Barré nous annonce un sévère tour de vis sur les travailleurs détachés. Le président qui voudrait bien voir la vie en vert, sauf qu'aucune alliance n'a pu être trouvée entre marcheurs et écologistes au municipal. Des policiers pris pour cible par des jeunes très alcoolisés, en Bretagne notamment à Lannion.
On a été pris dans un guet-apens. Ils voulaient vraiment casser du flic, quoi. Une zone de guérilla urbaine. J'aurais jamais cru trouver ça ici, à Lannion, dans les Côtes d'Armor.
Vous entendrez le reportage de François Coulon. Et puis, on ne parle pas encore d'année des méduses, mais les petites bêtes viennent troubler les baigneurs du côté de Toulon.
Il y a des petites violettes. Elles viennent par bande, c'est très agaçant. C'est surtout que là, on commence à être un peu en déconfinement. Et là, on ne peut pas se rafraîchir, c'est quand même dommage.
Juste après ce journal, coronavirus et forte chaleur. Le casse-tête dans les EHPAD, votre rendez-vous santé avec le docteur Jimmy Mohamed. 7h15, l'innovation Anissa Mbida qui vous propose de nager avec des dauphins tout en respectant le bien-être animal. Enfin, 7h20, le monde bouge. Vivement la retraite, nous dira Axel de Tarlé. La retraite qui inquiète les jeunes en ces temps de crise annoncée. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani. Deuxième vague ou première qui se prolonge, c'est évidemment la grande inquiétude après le Portugal qui a réintroduit des restrictions dans la région de Lisbonne. C'est au tour de l'Allemagne de resserrer les boulons. Écoles, bars et clubs de sport à nouveau fermés dans deux cantons où on a recensé un foyer de contamination dans un abattoir. Plus de 600 000 habitants sont à nouveau confinés. Hélène Kohl.
Ce reconfinement local, c'est l'application d'une stratégie ordonnée par le gouvernement allemand mi-mai. Si jamais, dans une localité, les chiffres de contamination dépassent de nouveau les 50 cas pour 100 000 habitants, alors il faut placer sous cloche tout l'arrondissement administratif. Cette habitante est fataliste.
D'un point de vue purement rationnel, toute émotion mise de côté, c'est une bonne chose. Mais en réalité, pour nous tous, c'est terrible. On reprenait goût à la liberté et voilà que tout ferme à nouveau.
Sven-Georg Adenauer, qui dirige le canton, reconnaît que la décision a été difficile à prendre.
C'est une mesure indispensable, même si elle nous pèse très lourdement. Mais nous devons faire tous les efforts nécessaires pour éviter que le virus se propage au reste de la population.
À l'heure actuelle, il n'y a aucune contamination en dehors des salariés de l'abattoir et de leurs familles. Ce sont des saisonniers roumains et bulgares qui sont logés par l'entreprise en dehors de la commune, dans des immeubles souvent insalubres. Toute la filière de la viande est montrée du doigt. Cela fait des années que les syndicats allemands alertent sur les conditions de travail et de vie de ces salariés étrangers intérimaires. C'est la cinquième fois en deux mois qu'un foyer de Covid se déclare dans un abattoir en Allemagne. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Hélène Kohl parlait des salariés étrangers en Allemagne. Eh bien, justement, Emmanuel Macron, qui reçoit tout à l'heure les partenaires sociaux, devrait leur annoncer un sévère tour de vis sur les travailleurs détachés. C'est ce que vous nous révélez ce matin, Nicolas Barré.
Oui, vous savez, les travailleurs détachés sont clairement dans le collimateur du chef de l'État pour une raison simple, c'est qu'on s'attend dans les mois qui viennent à une explosion du chômage et Emmanuel Macron a toujours été très dur vis-à-vis de cette pratique du travail détaché. C'est lui qui avait obtenu de Bruxelles en 2017, juste après son élection, que les détachés soient mieux encadrés et payés autant que les Français pour éviter toute forme de concurrence déloyale. Mais dans le contexte de crise actuelle, l'Élysée veut aller encore plus loin.
Voire quasiment interdire le travail détaché ?
Oui, en effet. L'idée serait effectivement d'inciter très fortement les entreprises à ne pas faire appel à des travailleurs détachés, notamment lorsqu'elles recourent au chômage partiel ou qu'elles font un plan de départ. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, l'État avait fait pression sur le constructeur automobile PSA pour qu'il renonce à recruter 531 travailleurs polonais dans son usine d'Ordin, dans les Hauts-de-France. L'État ne va donc pas se priver d'exercer ce genre de pression et de multiplier les contrôles anti-fraude pour, sinon interdire, du moins rendre très très difficile le recrutement de travailleurs détachés. En période de difficultés économiques, la tentation de faire appel en effet à de la main-d'œuvre bon marché est grande. C'est la raison de ce tour de vis qui est aussi bien sûr très politique.
L'éclairage éco de Nicolas Barré, c'est tous les matins dans le journal de cette d'Europe 1.
Et lors de la réunion de cet après-midi à l'Élysée, les partenaires sociaux attendent des annonces sur le chômage partiel, mais aussi sur le sort de la réforme de l'assurance chômage.
Et il sera également question de l'emploi des jeunes. Selon vos informations, Emmanuel Duteil, le gouvernement met la dernière main à un dispositif important pour inciter les entreprises à embaucher les jeunes, malgré la crise. 700 000 vont arriver sur le marché du travail à la rentrée.
il va y avoir un dispositif ambitieux pour l'embauche des jeunes. Voilà la promesse d'un ministre de premier plan. L'idée, c'est que cette aide entre en vigueur dès septembre. Il faut absolument que les entreprises embauchent des jeunes. On sous-estime la dureté de la crise économique qui est devant nous, s'inquiète une source gouvernementale. Donc concrètement, deux pistes sont sur la table. Une prime pour les entreprises en cas d'embauche d'un jeune. L'avantage, c'est que c'est très visible, note-t-on au gouvernement. Ou une exonération de charges sur le salaire, c'est moins visible, surtout que les jeunes sont souvent embauchés à de faibles salaires peu chargés. Il faut donc être innovant pour que ce soit incitatif, dit-on à Bercy. La mesure va être finalisée dans les jours à venir et passée au Parlement dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances qui débute lundi prochain.
Les informations d'Emmanuel Duteil.
Europe 1, il est 7h06.
Le bras de fer entre un restaurateur parisien et son assurance est terminé. Et c'est le restaurateur qui gagne.
Eh oui, on vous en avait parlé en avril sur Europe 1. Stéphane Manigold avait assigné AXA en justice parce qu'on ne voulait pas l'indemniser pour ses pertes pendant la crise. Il avait gagné, AXA avait fait appel, mais finalement... ils ont réussi à se mettre d'accord.
On est parvenu à limiter la casse pour l'entreprise, déjà, ça c'était pour moi l'essentiel, et d'avoir un peu de trésorerie qui nous permette de faire face à cette crise sans précédent, quoi. Bon, voilà, on a fait un compromis. Moi, j'étais persuadé, pour être franc, qu'on ne réouvrirait pas avant fin août. Il se trouve qu'on a ouvert début juin. Ça a aussi révisé, évidemment, mon jugement, hein, le fait d'avoir réouvert. Dans les 1700 restaurateurs sur les mêmes contrats, j'en ai beaucoup qui m'ont appelé pour me remercier parce que ils ont eu une proposition et ils en sont satisfaits. Donc, on se lasse, c'est une jurisprudence.
La satisfaction du restaurateur Stéphane Manigold, joint par Jean-Jacques Herry. Quant au traiteur de luxe Fauchon, victime des grèves et de la crise du Covid, il va déposer le bilan pour ses magasins et son siège parisien. Les autres boutiques en région sont défranchisées.
À 4 jours du second tour des municipales, on sait que le bilan risque d'être assez catastrophique pour La République En Marche.
La majorité a bien noué des alliances avec les Républicains à Bordeaux, par exemple. En revanche, aucun rapprochement local avec les écologistes, alors qu'Emmanuel Macron promet de verdir la fin de son quinquennat. Comment ça s'explique, Jean-Rémy Baudeau ?
Ce sont surtout eux qui ne voulaient pas. Dans les instances de La République En Marche, ce cadre le reconnaît, le mouvement aurait bien aimé nouer des alliances locales avec les écologistes. Au sein de la REM, beaucoup pensent même que la vision de l'écologie macroniste est compatible avec les courants les plus progressistes des Verts. Sauf qu'en réalité, LREM et ELV ont des visions inconciliables. Pour les Verts, le bilan écolo d'Emmanuel Macron est nul. Un proche de Yannick Jadot se fait tranchant. L'écologie, ça n'est pas une touche de peinture. Une autre écologie que la nôtre, ça n'existe pas. Sur le climat, les deux camps partagent parfois les mêmes objectifs, mais rarement les mêmes méthodes. Quant aux questions de sécurité ou de politique industrielle, les points de vue sont bien trop différents. On ne peut pas faire alliance avec des gens qui pensent comme Mélenchon, plaide une ministre, qui agite le chiffon rouge de l'extrême gauche. De toute façon, à moins de 2 ans de la présidentielle, les Verts, eux-mêmes divisés, n'auraient eu aucun intérêt à tendre la main à la Macronie. Emmanuel Macron veut faire de l'écologie un marqueur de la fin de son quinquennat, quand Yannick Jadot pense lui pouvoir rassembler toute la gauche derrière son nom.
Jean-Rémy Baudeau.
C'est un ancien des Verts, un ancien du WWF, mais élu sous la bannière La République En Marche. On va voir ce qu'il en dit. Pascal Canfin, mon invité tout à l'heure, l'eurodéputé à 7h40.
Europe 1.
Les forces de l'ordre de plus en plus souvent prises pour cible en Bretagne et notamment à Lannion. Il pourrait y avoir un lien avec la fermeture des boîtes de nuit. Reportage à suivre dans le journal.
Europe 1, il est 7h10, la suite du journal. Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
Des boîtes de nuit fermées, des bars qui baissent le rideau plus tôt et pas assez de policiers. Voilà peut-être le cocktail détonnant qui enflamme plusieurs villes bretonnes depuis la fin du confinement.
Des jeunes très alcoolisés s'en prennent aux forces de l'ordre. C'est arrivé à Brest, Douarnenez, Quimperlé et surtout à Lannion où la police a encore été prise dans un guet-apens dans la nuit de dimanche à lundi. Écoutez le reportage de François Coulon.
En 2 semaines, c'est la 3e attaque en règle contre les forces de l'ordre, un déchaînement inédit dans cette petite ville habituellement paisible de 20 000 habitants. Cédric et ses 2 collègues se sont retrouvés piégés entre 2 barrières.
On a été pris dans un guet-apens, 50 d'individus, et ils voulaient vraiment casser du flic, quoi. Une zone de guérilla urbaine. J'aurais jamais cru trouver ça ici, à Lannion, dans les Côtes d'Armor. Je comprends pas cette violence envers nous.
Certains policiers et gendarmes pointent la fermeture des discothèques en guise d'explication. Les commerçants de Lannion déplorent, eux, des effectifs policiers nocturnes très insuffisants. Emmanuel, patron du café Le Barnes.
J'ai tenu une demi-heure sans police avec 50 personnes devant en protégeant des clients. On a mis des blessés à l'intérieur du bar pour les aider. Le déclencheur, c'est la sortie du Covid. C'est l'affaire Traoré. Ils se regroupent pour se faire la police. Ce sont les réseaux sociaux. C'est mondial maintenant. Avant, la communication, elle mettait des années à arriver dans la campagne. Maintenant, elle sort sur Internet. Elle va aussi vite à Lannion qu'à Paris ou à New York.
Le syndicat UNSA Police demandant d'urgence des renforts de CRS tous les week-ends pour stopper cette escalade de la violence. Lannion, François Coulon, Europe.
5 familles et collectifs de victimes écrivent à Emmanuel Macron pour évoquer les violences policières. Elles lui demandent notamment l'interdiction du plaquage ventral et de la clé d'étranglement. Et puis de lourdes réquisitions dans le procès du Mediator, ce médicament prescrit comme coupe-faim qui a fait des milliers de victimes. 8 200 000 euros à l'encontre du groupe Servier. 3 ans de prison ferme pour l'ex numéro 2 Jean-Philippe Seta.
Bleu ou violette, elle porte le doux nom de Pelagia noctiluca. Ce sont les méduses qui se sont échouées en nombre sur le littoral varois.
Et oui, poussées par les courants, elles troublent la baignade de tous ceux qui essaient de trouver un peu de fraîcheur avec un thermomètre qui était hier au-delà des 32 degrés à l'ombre. Frédéric Michel est allé poser sa serviette et son micro du côté de Toulon.
Oui, il y en avait une grosse là.
Et avec sa pelle et son seau, Victor, 6 ans, préfère ne pas trop s'approcher et laisser sa maman chasser l'horrible bébête.
Ça faisait 10 minutes qu'on était là, j'en ai attrapé 2. Bah ça fait peur qu'il te fasse brûler quoi. Après c'est la plage, c'est comme ça. Hein. Va chercher le seau.
Et contrairement à une idée reçue, les méduses n'apparaissent pas car l'eau est chaude, mais parce qu'elles sont poussées par les courants. Pas très rassurées, Valérie et Carole se sont contentées de faire trempette.
On s'est déjà baigné, il n'y en avait pas. Et elles sont venues nous dire bonjour.
Des petites violettes, elles viennent par bande, c'est très agaçant. C'est surtout que là, on commence à être un peu en déconfinement. Et là, on ne peut pas se rafraîchir, c'est quand même dommage.
Sur les plages du Mourillon, un message d'alerte indique la présence des méduses. L'adjudant David Française, des pompiers du Var, est en charge des postes de secours de Toulon au Pradé.
En fonction de la population qui se baigne et du nombre de brûlures de méduses, on met les observations sur le tableau ainsi que la flamme attention méduse.
La Pelagia noctiluca est urticante. Depuis son apparition ce week-end, les pompiers ont traité chaque jour une dizaine de brûlures sans gravité. Pour les scientifiques, ce n'est pas l'année des méduses. Rien n'indique une prolifération anormale de ce petit plancton.
Ouf, on est soulagé. Frédéric Michel à Toulon pour Europe 1.
Merci beaucoup Hélène Zélani. C'était le journal de 7h sur Europe 1.
Il est 7h14, le rendez-vous santé d'Europe 1 avec le médecin Jimmy Mohamed.
Bonjour docteur.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Jimmy, à peine sorti du Covid, les EHPAD et surtout les résidents vont devoir faire face à cette vague de chaleur sur quasiment toute la France, on en a parlé. On est d'accord hein, Jimmy, il y a un véritable danger pour ces personnes âgées.
Et oui, tout le monde a en souvenir la canicule de 2003 qui avait fait plus de 20 000 morts. Alors, les personnes âgées sont particulièrement à risque pour plusieurs raisons. Déjà, dans les EHPAD, ce sont des personnes dépendantes. Ça veut donc dire qu'elles dépendent d'une tierce personne pour pouvoir s'hydrater puisqu'elles ne peuvent souvent pas le faire tout seules. Ensuite, elles ont des pathologies chroniques qui les rendent encore plus vulnérables et encore plus fragiles, qui peuvent se décompenser au moindre signe de déshydratation. Et puis, d'une façon générale, la personne âgée, elle perd la sensation de soif, alors que nous, spontanément, ce signal d'alarme marche très bien, et bien chez la personne âgée ça ne marche pas. Et puis dernier élément, quasiment le plus important, le système de transpiration de la personne âgée marche quasiment pas ou peu. Lorsque on a chaud, on transpire, c'est pour évacuer la chaleur. Sauf que chez les personnes âgées, elles ont moins de glandes sudoripares, ces glandes qui permettent l'évacuation de la sueur. Donc si on rajoute tout ça, les gestes barrières, la prévention du Covid, ça risque d'être un petit peu compliqué.
Et Jimmy, comment concilier du coup le respect des gestes barrières et la gestion de ce risque de canicule ?
Ah, ça va être très compliqué. Alors déjà, le gouvernement, les autorités sanitaires disent qu'il faut veiller au renouvellement de l'air 10 à 15 minutes, 2 fois par jour, tant que la température extérieure est inférieure à la température intérieure. L'utilisation de ventilateurs est possible avec la brumisation dans une pièce où il y a une seule personne. Et le ventilateur doit être stoppé dès que quelqu'un rentre. Ça veut donc dire que le résident doit pouvoir éteindre son ventilateur. Dans les pièces collectives, eh bien, il sera interdit d'utiliser le ventilateur lorsqu'il y a plusieurs personnes, même si elles portent un masque. Et dans les pièces fraîches qui avaient été aménagées, il faut respecter 1 mètre de distanciation sociale. Vous allez me dire, c'est pas si mal, mais ça veut dire qu'il faut au moins 4 mètres carrés entre chaque personne. Bref, un véritable casse-tête en perspective pour les soignants, mais aussi les résidents.
Merci Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1. Vous le savez, on vous retrouve tous les jours, Jimmy, après le journal de 7h et à partir de 15h, l'émission Sans Rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez.
Et on retrouve à 7h16 Anissé Mbida, innovation du jour sur Europe 1.
Bonjour Anissé.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Il y a un petit parfum de vacances ce matin avec Anissé. Nager avec des dauphins, voilà qui a toujours fait rêver bien sûr. Mais c'est interdit dans les parcs aquatiques français au nom du bien-être animal. Désormais, il existe une alternative,
nager avec des robots dauphins, plus vrai que nature.
Oui, oui, et c'est vraiment bluffant de ressemblance. On vous a mis une vidéo sur le hashtag Europe 1, vous allez voir, hein, ils nagent exactement de la même façon, ses mimiques sont identiques, il fait le même bruit, la même,
c'est bluffant.
La texture de la peau, c'est strictement la même. Non, on a vraiment du mal à croire que c'est pas un vrai. Et pour cause, il a été créé par Edge Innovation. Edge Innovation, c'est une société qui est spécialiste dans les effets spéciaux marins, et ce sont eux qui fabriquent la plupart des requins, des orques, des baleines que vous voyez au cinéma. La différence, c'est que là, il n'y a pas de câble, c'est un animatronique, ça, donc il est télécommandé, mais il reste totalement indépendant avec une autonomie de 10 heures.
Et on peut lui faire faire des cabrioles ?
Non, pas encore. On n'est pas encore, il ne va pas encore si loin dans le réalisme, mais il peut quand même faire des petits sauts de dauphins au-dessus de l'eau. Mais l'objectif, c'est avant tout de remplacer tous les dauphins dressés dans les présentations éducatives ou pour les jeux avec le public. Comme il est télécommandé, on peut par exemple le faire passer entre les jambes de quelqu'un, attraper des cerceaux, faire des petites pitreries. Ça permet d'avoir une véritable interactivité sans qu'on ait à servir un animal intelligent.
On peut déjà les voir dans les parcs aquatiques.
Alors ça commence, les premiers vont bientôt débarquer dans un immense parc en Chine. Il y a déjà des tests qui ont eu lieu dans un parc Disney et apparemment les visiteurs étaient ravis, même s'ils savaient à l'avance que c'était un robot.
Oui, il ne faut pas non plus leur mentir. Il y a un côté arnaque derrière ça, vous nagez avec un dauphin, en fait c'est un robot.
Et en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'ils reçoivent aujourd'hui des commandes du monde entier, parce que les lois sont devenues extrêmement strictes sur l'exploitation des animaux marins en captivité. Bah, du coup, ça oblige tous les parcs aquatiques à se réinventer, exactement comme le font les zoos ou les cirques en ce moment.
J'imagine bientôt sous le sapin, non plus une voiture télécommandée, mais un petit dauphin télécommandé.
Ça existe déjà, Flipper.
On peut le mettre dans sa baignoire ou... Non, c'est un peu gros peut-être.
Place, hein.
Merci beaucoup Anissa Mbida, avec qui il y avait Danse avec les loups, il y a Nage avec les dauphins maintenant, le matin, sur Europe 1. Merci Anissa.
Europe 1. Vivement la retraite, c'est ce que nous dit.
J'ai cru que c'était un commentaire Axel personnel. On était à l'antenne, Ombline.
Oui. Alors la retraite qui inquiète les jeunes en ces temps de crise. Le monde bouge. Axel de Tarlé sur Europe 1. 7h21, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et Axel de Tarlé, le monde bouge. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Quelles conséquences cette épidémie aura-t-elle sur nos retraites? La GIRC-ARRCO organise jusqu'à la fin de la semaine des entretiens personnalisés sur la retraite des 19 millions de salariés du secteur privé. Et le standard explose.
Oui, hier soir, 80% des créneaux disponibles étaient déjà réservés. Alors, il y a encore de la place jusqu'à la fin de la semaine. Alors, bien sûr, avec le Covid, ces entretiens personnalisés ne se font plus en face à face, mais par téléphone. Et on constate depuis le début de la semaine que ce sont des salariés plus jeunes que d'habitude qui cherchent ainsi à obtenir des informations sur leur retraite. Alors, pourquoi plus jeunes? Parce qu'avec la crise, certains s'inquiètent de perdre leur emploi et puis d'autres s'interrogent sur les conséquences du chômage partiel sur l'âge de départ.
Alors, comment les Français perçoivent-ils la retraite? Comme une libération ou bien plutôt comme un enterrement, la fin de la vie active?
Eh bien, écoutez, la France est divisée en deux camps égaux. Dans les enquêtes d'opinion, vous avez la moitié qui dit vouloir partir à la retraite le plus tôt possible et l'autre moitié qui dit être prêt à prolonger un peu l'activité. En fait, ça dépend de si vous êtes bien au travail. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, avec l'épidémie, le camp de ceux qui sont bien au travail a plutôt augmenté. Pourquoi ?
Ah, c'est contre-intuitif, ça.
Eh bien oui, parce que justement, avec le télétravail, pour beaucoup, c'était une façon plus agréable de travailler. Vous voyez, pas de transport, pas de petit chef qui vous surveille en permanence.
Ah, on veut bien continuer à travailler plus longtemps, mais à la maison.
Exactement, voilà. Alors, même si tous les Français là sont d'accord, tout le monde veut réussir sa retraite, d'où l'intérêt là, de ces rencontres à GIRC-ARRCO. Vous savez, c'est le démographe Hervé Lebras qui a cette formule empruntée à Marcel Gaucher, qui est très amusante. La retraite, dit-il, c'est le moment socialiste de la vie. On a du temps, de l'argent et pas de patron.
Simplement, Axel de Tarlé, il y avait quand même une énorme réforme des retraites qui était dans les tuyaux, rien. Alors, là-dessus, sur les points, tout ça.
Elle est plus ou moins abandonnée, mais en fait, il y a très peu de gens qui appellent au sujet de cette réforme, parce que cette réforme, elle concerne les jeunes les moins de 45 ans, puisqu'elle concerne que les générations nées après 75.
Évidemment. Axel de Tarlé, le monde bouge. Merci beaucoup, Axel. Il est 7h23.
L'édito sport de Virginie Fulpin sur Europe 1.
Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu.
Il y a 3 matchs de foot italien ce soir, mais vous ne les verrez pas, même si vous êtes abonné à beIN Sport, la chaîne ne diffusera plus la Serie A jusqu'à la fin de la saison. Pour vous, on ne peut pas laisser les téléspectateurs payer les pots cassés de batailles qui les dépassent.
Je me mets à la place des abonnés à beIN Sport. Ils paient un abonnement, ils n'ont rien pu regarder pendant 3 mois à cause de la pandémie, ça on a bien compris. Mais là, le championnat italien a repris et les abonnés ne peuvent toujours rien voir sauf qu'ils continuent à payer. Et là, on comprend moins. Alors, il y a de vraies raisons à ce blocage. beIN détient les droits télé du championnat italien dans de nombreux pays, dont la France. La chaîne paie la Ligue italienne pour ça. Mais comme il n'y avait pas de match, il y avait une compensation financière, c'est logique. Mais aucun accord n'a été trouvé et ce sont les abonnés qui trinquent. Et puis là-dessus vient s'ajouter la géopolitique, les tensions diplomatiques entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Bein, chaîne Qatari, reproche à la Ligue italienne d'organiser depuis 2 ans sa supercoupe en Arabie Saoudite. Les deux pays règlent maintenant leurs différends à travers le sport et à travers la diffusion du sport. Mais est-ce que c'est vraiment à nous, sur notre canapé, de faire office de dommages collatéraux dans une guerre financière et diplomatique? Je ne suis pas bien sûre. S'abonner à une chaîne pour regarder du football, ça coûte cher. Et le téléspectateur est en droit de bénéficier des produits qu'il achète, me semble-t-il. Ce serait bien de revenir à des relations commerciales plutôt qu'à des relations internationales qui nous dépassent forcément un petit peu.
Bah oui, c'est devenu compliqué le foot quand même. Hein. Le foot italien désormais se joue entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, si on vous écoute. Alors pour vous, les téléspectateurs doivent être entendus.
Bah, les abonnés Bein sont très énervés depuis 3 semaines et on les comprend. Ils demandent un geste commercial de la part de la chaîne. Une ristourne, quoi, c'est le minimum. Et puis si on veut aller plus loin, on a en France une autorité qui régule l'audiovisuel, c'est le CSA. Peut-être qu'il serait temps d'intervenir, non? On ne peut pas laisser des dizaines de milliers de personnes le bec dans l'eau pour des raisons sur lesquelles elles n'ont aucune prise. Et puis sans intervention, regardons ce qui pourrait se passer. La colère des téléspectateurs va encore monter, Bein va perdre des abonnés. Et il y a beaucoup de gens qui vont se replier sur les sites de streaming illégal. Et puis tiens, ils vont peut-être même aller voir ce qui se passe sur BeOutQ. Ça, c'est une chaîne pirate saoudienne qui pille les programmes de Bein Sport. Je ne suis pas bien sûr que ce soit une bonne idée de prendre ce risque-là. Hein.
Si vous voulez rentrer dans la géopolitique, alors que tout ce que vous vouliez, c'était un match de Serie A le soir tranquillement.
On voulait savoir s'il y avait péno.
Virginie Fulpin, l'édito sport, tous les matins sur Europe 1. Il est 7h25.
À suivre un nouveau journal à 7h30, la météo avec Laurent Cabrol sur Europe 1. 7h28, Mathieu Bellier sur Europe 1.
Et Laurent Cabrol qui nous rejoint, c'est l'heure de la météo.
Et si vous avez du mal à ouvrir un œil, allez, l'œil droit mettons. Et regardez le ciel, il est tout bleu. Avec l'œil gauche, le soleil, bah, il vient de sortir. Il est là, il vient nous voir encore aujourd'hui. Donc c'est un temps agréable qui s'annonce, c'est une belle journée. Je ne vais pas en faire des tonnes, comme dirait l'autre. Je vais me contenter de dire qu'il va faire beau et que personne ne sera à l'abri du soleil et du beau temps. 28 degrés à Nice cet après-midi, 31 à Besançon, 32 à Dijon, 33 à Nantes, 34 à Paris, 35 à Bordeaux et à Lyon et 36 à Cahors. Et vous dire que demain, il fera encore plus chaud, que jeudi et vendredi seront des journées bon, charnières. Jeudi, donc, beaucoup de chaleur et vendredi, des températures en baisse avec l'arrivée des orages. Donc, tout ceci est confirmé par les dernières cartes que j'ai vues il y a à peu près une dizaine de minutes. Donc pas d'inquiétude, nous sommes dans la bonne mouvance, la mouvance d'une fin de grosse chaleur avec des orages qui risquent d'être violents. Et la semaine prochaine sera également une semaine chaude.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Vous êtes sur Europe 1 avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Jérôme Lacroix pour un nouveau journal. Il est 7h30.
Il y a des pays qui manquent de tests, c'est une catastrophe. Nous, d'en avoir trop sur les bras et de devoir plus tard en jeter, c'est pas tolérable.
Un comble, les laboratoires privés français en surstock de tests PCR. Demande de dépistage beaucoup moins nombreuses que prévu. La peur du gâchis, certains tests seront bientôt périmés. Le virus inquiète toujours en Guyane. La ministre des Outre-mer sur place promet des renforts sanitaires. Peut-être bientôt des class action à l'échelle européenne. Des Français, Allemands, Italiens qui s'associent pour défendre leurs droits de consommateurs. Et puis, le tout premier prix littéraire Europe 1, lauréat dévoilé ce soir, on est très fiers, vous découvrirez les 5 auteurs en lice.
Juste après ce journal, l'écologie au centre des préoccupations pour penser le monde d'après, on va en parler avec Pascal Canfin, qui est président de la commission environnement du Parlement européen, pressenti d'ailleurs au gouvernement en cas de remaniement, c'est à 7h40. À 7h50, Périscope, le rendez-vous culture de la matinale, Jean-Philippe Ballas avec Alexandre Astier, le créateur de Kaamelott. Enfin, la suppression annoncée de vols régionaux qui agace profondément Nicolas Bétou. L'opinion de Nicolas Bétou avant 8h. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
3 mois et demi de baisse continue du nombre de malades en réanimation, diminution aussi du rythme quotidien de nouvelles contaminations. De bonnes nouvelles, bien sûr, mais il y a un revers à cette médaille, les stocks de tests PCR. Vous avez se pratiqué avec le long coton-tige dans le nez, ces stocks s'accumulent dans les laboratoires privés.
Des millions ont été commandés, des millions de tests au plus fort de la crise, de quoi en réaliser jusqu'à 700 000 par semaine. C'était l'objectif du gouvernement pour le déconfinement. Mais le virus circule moins que prévu et seuls 250 000 dépistages sont effectués en moyenne chaque semaine.
Des cartons entiers s'accumulent dans les laboratoires. Pire, certains tests pourraient être périmés à l'arrivée d'une potentielle deuxième vague. Romain Noquet.
Il y a des pays qui manquent de tests, c'est une catastrophe. Nous, d'en avoir trop sur les bras et de devoir plus tard en jeter, c'est pas tolérable.
Environ 3/4 des tests commandés patientent dans les congélateurs des laboratoires privés. L'épidémie a ralenti, les demandes de dépistage ont donc baissé. Des investissements perdus, regrette Lionel Baran, président du syndicat des jeunes biologistes.
Les laboratoires sont dans une difficulté économique. Si on a plusieurs centaines de milliers de réactifs sur les bras à 30 euros le réactif, on est à plusieurs millions. Et pour les machines, c'est pareil. C'est l'État qui commande et c'est les laboratoires qui ont pris l'ensemble du risque financier. Et ça, c'est pas logique.
Des tests bientôt inutilisables. Dans l'un des principaux groupes de laboratoires, la moitié du stock sera périmée en octobre. L'urgence, c'est donc de les écouler durant l'été. Mais la loi interdit la revente en France, précise François Blanchecotte. Alors le biologiste mise sur l'export.
Nous devons absolument nous en séparer. On a des demandes extrêmement fortes sur l'Amérique du Sud, ou même l'Angleterre. Il y a des discussions avec des laboratoires étrangers qui veulent les acheter.
La Direction Générale de la Santé ne s'oppose pas à ces remises sur le marché. Des transactions qui resteront tout de même sous surveillance, car nous dit-on, ces laboratoires doivent conserver un stock dans l'hypothèse d'un retour de l'épidémie.
Enquête signée Romain Oquet pour Europe 1.
La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée en Guyane où le virus prolifère. Elle promet des renforts hospitaliers, du personnel et du matériel.
Reconfinement envisagé si la situation ne s'améliore pas. Ce serait la dernière chose à faire, s'alarme ce matin Gabriel Serville, député de Guyane.
Si le confinement généralisé entraîne des avantages, il apporte aussi son lot de désolation en termes sanitaires, en termes psychologiques, en termes social, sociétal et surtout en termes économiques. Donc je pense que la Guyane, c'est un territoire qui, comme Mayotte, a déjà suffisamment souffert de tous ces retards d'équipement, ces retards d'équipement infrastructurel, ces retards à l'allumage pour l'éducation, pour l'accès à la santé, pour l'accès aux services publics, pour l'économie. Et donc, de mon point de vue, il faudrait mesurer véritablement l'impact que pourra avoir un reconfinement généralisé de la Guyane pour ne pas commettre une erreur qui serait totalement irréversible.
Le député de Guyane, Gabriel Serville, joint pour Europe 1 par Pierre Herbulot.
Et en métropole, le risque de reconfinement localisé existe-t-il ? C'est notre enquête, dès le début du journal de 8h, tout à l'heure.
Où l'Allemagne connaît cette situation, 600 000 habitants de deux cantons, bars, cinéma, piscine, à nouveau fermés. Et puis j'ajoute par ailleurs, Didier Raoult, le défenseur de l'hydroxychloroquine, auditionné cet après-midi par les députés de la commission d'enquête.
Europe 1, il est 7h34.
Plus de 8 heures de réquisitoire de la procureure hier au procès du Mediator et de lourdes réquisitions. Plus de 8 millions d'euros d'amende au total contre les laboratoires Servier et 3 ans de prison ferme requis contre son ex-numéro 2, jugement attendu en 2021. Vous êtes français, mais vous achetez la même voiture ou prenez parfois le même avion qu'un Italien, qu'un Espagnol, qu'un Allemand. Eh bien, peut-être bientôt, en cas de litige, vous pourrez vous associer à ses voisins pour saisir la justice. Un premier accord vient d'être trouvé en ce sens à Bruxelles.
Ce principe de class action européenne qui existe déjà localement dans certains pays, comme aux Pays-Bas, une action a récemment ciblé Volkswagen après le scandale des moteurs diesel. Et comme Europe 1 vous le révélait hier, des citoyens s'attaquent désormais au groupe Daimler qui produit les véhicules Mercedes. Aurélien Fleurot.
Cette nouvelle forme d'action collective existe depuis le 1er janvier dernier dans la loi aux Pays-Bas. C'est donc devant la cour d'Amsterdam que la fondation Diesel Emission Justice vient d'assigner le constructeur allemand. Et cela va permettre à des particuliers de toute l'Europe de rejoindre l'action s'ils s'estiment lésés et à terme d'être indemnisés, comme l'explique Maria-José Hazard-Beau, maître de conférence en droit à l'université Paris-Saclay et membre de la fondation.
On sait qu'aujourd'hui il y a plus de 1 million 400 000 véhicules concernés en Europe. La fondation, elle prétend représenter tous les consommateurs européens concernés par le Dieselgate qui ont soit acquis, soit loué, soit utilisé des véhicules Mercedes pendant la période concernée.
Des réclamations qui portent sur la période 2009-2019. La première procédure de ce type contre Volkswagen a permis de rassembler plus de 12 000 plaignants en Europe et a déjà eu quelques effets. À la fin du mois de mai dernier en Allemagne, la justice a condamné Volkswagen à indemniser un plaignant à hauteur de 26 000 euros pour une voiture achetée 30 000 euros.
Une naissance dont nous sommes très fiers aujourd'hui, celle du premier prix littéraire européen en partenariat avec la GMF. Lauréat dévoilé ce soir, 5 romans en lice et un thème commun, raconter les histoires des femmes et des hommes qui se mettent au service du collectif. Nicolas Carreau.
Je vous les donne dans l'ordre alphabétique, comme ça pas de jaloux. Il y a le roman de Karl Aderholt d'abord, Le Théâtre des Nuits chez Stock, qui nous emmène en pleine Première Guerre mondiale. On suit son héroïne et une troupe de comédiens partis sur le front pour jouer devant les soldats. Le Courage des Autres d'Hugo Boris chez Grasset, l'histoire d'un champion de karaté, ceinture noire, qui reste pétrifié par la peur un jour dans le métro alors qu'il assiste à une scène de violence. Il le vit mal et il commence alors à noter tout ce qu'il observe dans les transports, des petites actions héroïques, des pointes de civisme ou simplement la poésie du quotidien. Rien à voir, encore que « Ce qui est nommé reste en vie ». Très beau titre, « Ce qui est nommé reste en vie » de Claire Fercac chez Vertical, qui raconte poétiquement l'accompagnement de la fin de vie. Pascal Grégoire avec Monsieur le maire au Cherche-Midi. C'est un polar, mais qui décrit le quotidien d'un maire d'une petite ville et son rapport avec ses administrés. C'est d'actualité. Et puis Pascal Rose, prix Goncourt en 96, est aussi dans la sélection avec La belle Hélène chez Stock. Elle y raconte la vie d'une prof de lettres qui tente de transmettre son amour de la littérature à ses étudiants.
Nicolas Caro pour le tout premier prix littéraire Europe 1, lauréat dévoilé ce soir.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. Vous êtes sur Europe 1, c'était le journal, il est 7h37.
Europe 1, la matinale d'Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard.
On surveille toujours de très près bien sûr l'évolution de l'épidémie et on observe des reconfinements par zone à l'étranger. 8h15 sur Europe 1, Sonia Mabrouk reçoit le professeur Éric Combe. C'est le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il y a la crainte sanitaire, l'urgence économique et cette préoccupation des Français pour l'écologie. Oui, aussi, la Convention citoyenne sur le climat a rendu ses propositions au gouvernement. Comment penser le monde d'après? Dans une minute, mon invité, c'est Pascal Canfin, président de la commission environnement au Parlement européen, de l'écologie, mais aussi de la politique au programme. À tout de suite.
À 7h40, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1. Votre invité, Mathieu Béliard, c'est Pascal Canfin, député européen, président de la commission environnement du Parlement européen.
Bonjour Pascal Canfin.
Bonjour.
Vous êtes à Bruxelles, je suis à Paris, Pascal Canfin, mais finalement on voit tous les deux l'éléphant qui est au milieu de la pièce. On va commencer par la question purement politique. Au municipal, La République En Marche choisit les Républicains pour ses alliances. Vous êtes sur la même ligne? On fait barrage au vert?
C'est un résumé un petit peu caricatural quand même, parce que je peux vous citer des dizaines de villes où ça n'est pas le cas. C'est pas le cas à Lille, c'est pas le cas à Bordeaux, c'est pas le cas à Rennes, c'est pas le cas à Nantes, je pourrais vous en citer,
Bordeaux,
c'est pas le cas à Besançon,
plus compliqué,
etc.
Il y a Lyon aussi,
donc,
vous savez qu'on
peut...
Lyon,
et tout à fait, vous avez raison, il y a des cas contraires à ce que je viens de citer, les deux, enfin ceux qu'on évoque toujours, notamment Lyon. Je rappelle que Gérard Collomb a été exclu
d'attitude. Parce que, enfin, je voudrais qu'on parle d'écologie, qu'on parle pas que de ça, mais simplement,
attendez,
vous, l'ancien vert.
Vous avez envie de raconter cette histoire,
quand vous entendez,
elle est fausse.
Pardonnez-moi, Pascal Canfin, quand vous entendez qu'on fait barrage au vert, moi j'ai l'impression d'entendre le discours qu'on avait sur le Front National il y a 15 ans, parfois. Ça ne vous gêne pas?
Vous avez raison. Moi, quand j'entends ce discours, évidemment, ne me convient pas. Et quand j'entends Gérard Collomb dire on va faire un front républicain anti-écologique, ça ne me convient pas. Mais ça ne convient pas non plus à La République En Marche, tellement qu'il en a été exclu. Donc arrêtez de raconter l'histoire selon laquelle il y aurait partout au sein de La République En Marche une volonté de construire un front anti-écologique, alors que ça n'est pas la règle, c'est l'exception. Et quand cette exception a lieu, en plus, la personne qui le monte est exclue du mouvement. Deuxième élément, il y a partout en France des candidats qui portent, quelle que soit leur couleur politique, et ça je m'en félicite, parce que vous avez abordé la question sous l'angle purement politique.
Oui.
Moi je préfère toujours l'aborder sous l'angle du contenu. Tant mieux si plusieurs forces politiques, les écologistes évidemment, mais aussi d'autres forces politiques, y compris La République En Marche, notamment au niveau national et européen, porte l'écologie, parce que c'est en unissant nos forces qu'on gagnera. Et c'est ça qui m'embête dans la démarche, si vous voulez, aujourd'hui, totalement partisane et clivante d'Europe Écologie Les Verts, c'est que eux-mêmes ont refusé par principe toute alliance avec
La République En Marche.
C'est-à-dire que vous nous dites « Ah, c'est En Marche qui est responsable de construire un front écologique », mais posez la question à Europe Écologie Les Verts. Pourquoi avoir refusé par principe, partout en France, le fait de ne pas faire ou d'imaginer des négociations pour éventuellement avoir des candidatures communes au deuxième tour? Le sectarisme, il n'est pas du côté d'En Marche. Le sectarisme, il est du côté d'Europe Écologie Les Verts. Et je suis d'autant plus surpris que vous avez partout ailleurs en Europe. Moi, je suis président de la commission environnement du Parlement européen. Je peux donc vous partager ce qui se passe aussi ailleurs en Europe. Ailleurs en Europe, c'est exactement le contraire. Les alliances, elles se font entre le centre et les écologistes. C'est le cas en Irlande. C'est le cas dans plusieurs landers allemands. Donc, il y a une forme de sectarisme de gauche extrême d'Europe Écologie Les Verts qui, je pense, nuit à la cause et à la capacité de rassembler derrière cette cause.
Votre réponse est très claire, Pascal Canfin. Vous êtes, vous l'avez rappelé, président de la commission environnement du Parlement européen. Les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat ont remis leur proposition dimanche. Ils seront reçus par le président de la République lundi pour valider, adopter certaines de ces propositions. Vous êtes un défenseur de l'option référendum. Seul un référendum est à la hauteur de l'urgence climatique, dites-vous. Il faut donc, Pascal Canfin, prendre le risque du non.
Et il faut prendre le risque et le courage de consulter les Français. Et évidemment, l'écologie ne se fait pas contre la démocratie. Et c'est pour ça que je suis très favorable à un référendum à questions multiples. J'insiste sur ce point parce que un référendum qui ne poserait qu'une seule question, on le sait, peut très vite tourner en référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Donc là, pour le coup, ce serait absurde parce que ça ne ferait avancer aucun débat. En revanche, si on soumet aux Français, moi je pense que le bon exercice est 3 à 5 questions. Au-delà, c'est trop compliqué. Et en dessous, on retombe dans le scénario pour ou contre Macron. 3 à 5 questions de société, des réformes profondes, structurantes, pour lesquelles il faut vérifier d'un point de vue démocratique, que la société ou la majorité de la société est derrière nous. Et ça, je pense que c'est fondamental, parce que sinon, on prend le risque soit de ne rien faire du tout en disant « oulala, ça va être impopulaire, oulala, les 110 km/h sur autoroute, vous n'y pensez pas, oulala, l'obligation de rénovation des bâtiments, vous n'y pensez pas ». Et donc, comme depuis 20 ans sur les bâtiments, par exemple, eh bien, on rate tous nos objectifs, quelle que soit la couleur politique des gouvernements, soit au contraire, on dit, ben non, on va assumer devant les Français 3, 4, 5 grands choix structurants, et ensuite, le débat a lieu et les Français tranchent. On leur donne les clés de l'ambition climatique. Je pense que c'est ce qui est absolument ce qu'il y a de mieux à faire en démocratie.
L'avocat spécialiste du droit de l'environnement, Arnaud Gaussement, je vous le cite, il estime que la Convention a mis de côté la quasi-totalité des sujets qui fâchent. Rien, alors on va surtout s'arrêter là-dessus, Pascal Canfin, rien sur la fiscalité. C'est quand même ce qui a déclenché l'existence même de cette convention, ces questions de taxe carbone.
Tout à fait. Et c'est un choix qui a été fait par les citoyens eux-mêmes, que par construction, donc, je respecte ce choix. Ils l'ont fait. Ça consiste à quoi, ce choix ?
Mais vous le regrettez.
Ça consiste à dire, si on revient avec la taxe carbone, on ne verra que ça. Et le risque qu'ils ont vu, c'est que finalement, ils soient en quelque sorte instrumentalisés par le gouvernement, comme disant, eh bien, on ne peut pas faire passer la taxe carbone comme on a voulu le faire passer, donc on va passer par une convention citoyenne qui elle-même va reproposer la taxe carbone. Eh bien, justement, ils ont bien fait, ils ont fait preuve de sagesse en disant, on ne va pas prendre ce risque-là et on va explorer d'autres pistes. Et par ailleurs, sur le fond, maintenant, la taxe carbone est un élément parmi beaucoup d'autres et pas forcément le plus pertinent sur le plan écologique et on l'a bien vu, pas toujours, et c'est clair, le plus facile à manier sur le plan social. Donc je pense qu'il y a bien d'autres politiques publiques à mener, d'autres propositions très concrètes qui sont faites par cette convention dont je salue l'existence et dont je salue le fait que c'est un exercice inédit en France. Là, on est en train de discuter, en Europe, on est en train de discuter des comment on va mener à bien ce processus et on a parfaitement raison de le faire, mais prenons un tout petit peu de recul. Cette expérience exceptionnelle n'a jamais été faite nulle part ailleurs qu'en France. Et donc, on peut déjà en faire un motif de fierté.
Pascal Canfin, merci beaucoup, député européen, président de la Commission environnement du Parlement européen. Vous serez toujours au Parlement européen en septembre, Pascal Canfin ?
Je serai toujours au Parlement européen en septembre.
Merci bien beaucoup. Sûr. Non, parce qu'il y a des rumeurs de remaniement de Pascal Canfin pressenti. Il sera toujours au Parlement européen en septembre. Merci Pascal Canfin. Il est 7h47.
Europe 1. Jean-Philippe Ballas, dans un instant avec Periscope, la rencontre avec Alexandre Astier, le créateur de la série Kaamelott. 7h50, la matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard.
Et avec Jean-Philippe Ballas pour Periscope, la culture à 360 degrés, votre rendez-vous culture dans la matinale d'Europe 1. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Attention, c'est le grand retour d'une série culte, Kaamelott, avec une bande dessinée publiée aujourd'hui, le tome 9. Et puis bien sûr, le film qui est très attendu à la fin de l'année. Jean-Philippe, vous avez passé un coup de fil au roi Arthur en personne, le créateur de Kaamelott, monsieur Alexandre Astier.
Oui, le genre de type un peu énervant, Alexandre Astier, parce qu'il sait à peu près tout faire. La musique, l'écriture, la mise en scène, la réalisation, les séries télé, les spectacles, les films et donc la BD chez Casterman avec le dessinateur Steven Dupré. Vous êtes les bienvenus dans le royaume de Kaamelott. Bonjour Alexandre Astier.
Bonjour.
Les renforts maléfiques, c'est le titre de ce 9e tome, des aventures extraordinaires, magiques, féeriques, mais des héros finalement très humains et drôles avec leurs qualités, leurs défauts.
Exactement. Bah, comme dans la Grande Vadrouille, nos deux camarades sont des humains face à l'occupation. C'est un sujet trop grand pour eux. Mais c'est quand même le principe de la comédie, ça. Jeter des gens normaux dans des situations extraordinaires. Des aventures qui arrivent à l'époque où Arthur et ses chevaliers venaient un peu de se mettre en place. Donc non, c'est un grand plaisir, c'est un très très grand plaisir.
Et il y a une émotion quand on a entre ses mains le résultat final ?
Sûrement, oui, énorme, mais probablement encouragé par le fait que c'est moins dur à faire qu'un film. C'est-à-dire qu'un film, quand vous dites qu'il va y avoir une bagarre avec 10 000 gars qui se mettent dessus, vous savez qu'avant de voir les 10 000 gars, il va y avoir pas mal d'étapes. Alors que là, en fait, vous demandez au camarade Steven Dupré qui dessine 10 000 gars, il vous fait 10 000 gars, et puis c'est assez merveilleux comme truc.
Donc ça, Alexandre Astier, c'est la BD. Et puis, à bientôt le film, très attendu. On a vu une bande-annonce il y a quelques semaines avec plein d'acteurs, Alain Chabat, Guillaume Gallienne, Christian Clavier. Et puis, une petite surprise, on aperçoit Sting dans cette bande-annonce.
Oui.
Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire, Sting?
Qu'est-ce que je peux vous dire? Je préfère vous dire qu'il n'est pas du côté des gentils. Il fait un salopard. Mais quel salopard, je ne sais pas trop vous en dire. Mais oui, il n'est pas du côté d'Arthur du tout. Ça, c'est sûr.
Ce film devait sortir cet été, il est repoussé au 25 novembre à cause de la crise sanitaire. Mais vous pouvez nous dire, Alexandre Astier, ce matin, que ça y est, il est terminé ?
Non, pas tout à fait, puisque c'est différé, j'en profite, je peaufine, je tricote. C'est bien le problème de mes équipes qui en ont ras-le-bol de mon pif. C'est que moi, si on me dit « tu sors le 25 novembre », moi, le 24 novembre, je suis encore en train de faire de la soudure, du rabotage, du vernis, qui me plaît, c'est de fabriquer. Moi, c'est pas de sortir spécialement. Une fois que c'est sorti, c'est fini pour moi.
La patience est un plat qui se mange sans sauce.
Alexandre Astier, aujourd'hui, Kaamelott, c'est ce qu'on appelle une franchise. C'est une grosse machine. Comment on arrive à garder l'esprit des débuts ?
C'est l'art de dire non. C'est très compliqué. Des fois, au début, j'avais beaucoup de mal. Parce que quand vous rapportez de l'argent, vous avez un système marketing qui se met en place. Il faut faire ce qui se vend ou ce qu'on croit que les gens attendent, ce qui est toujours une erreur, en fait. Il faut rester très personnel, très artisanal, très familial, très petite boutique, parce que sinon, ça devient faux. Donc, c'est l'art de dire non, pas ça, non, pas ça. Passer pour un emmerdeur, voire un connard de temps en temps. Mais au début, ça me posait problème. Mais ça va, maintenant, je passe pour un connard avec beaucoup de plaisir.
Merci beaucoup, Alexandre Astier.
Merci à vous.
Le roi Arthur, Alexandre Astier, bientôt le film et déjà ce matin la sortie d'une nouvelle BD de Kaamelott, Les renforts maléfiques, c'est chez Casterman. Sincèrement, on ne l'a pas beaucoup entendu ces derniers temps, Alexandre Astier. Si vous avez des fans de Kaamelott dans votre entourage, envoyez-leur Periscope, l'interview, le podcast. Non, il y a des infos sur le film à venir. Merci Jean-Philippe Ballas, il est 7h53.
L'opinion de Nicolas Béthou sur Europe 1.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est l'une des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat qui devrait entrer rapidement en application, l'interdiction de desservir les petites lignes aériennes.
Et oui, comme s'il y avait une urgence absolue qui imposait de ne même pas attendre qu'Emmanuel Macron s'exprime sur le sujet. Vite, vite, il faut interdire tous les trajets en avion qui peuvent être remplacés par un trajet en train de moins de 2h30. Cette décision, c'est le résultat de deux événements successifs. Le premier, c'est l'aide de 7 milliards d'euros que l'État a consentie à Air France. Bruno Le Maire y a mis une condition, réduire l'empreinte carbone de la compagnie aérienne, en particulier en renonçant à la desserte de très courts courriers. Et puis, deuxième lame, la Convention citoyenne qui a adopté dans l'enthousiasme cette interdiction pour les trajets de moins de 4 heures. Je vais vous dire, je n'ai jamais vu une décision aussi lourde de conséquences être prise avec aussi peu de réflexion sur la suite, aussi peu de ce qu'on appelle des études d'impact.
Lourdes de conséquences, il y a quand même au moins une vraie conséquence positive. Moins d'émissions de carbone dans l'air, moins de bruit aussi, Nicolas.
Bravo, bravo. Mais que mettons en face ? Parce que l'écologie, c'est bien à condition d'en maîtriser le coût économique et social, bien sûr. Ce sont des milliards d'euros d'activités et des milliers d'emplois qui vont disparaître des plateformes aéroportuaires de grandes villes comme Lyon, Bordeaux, mais aussi de tous les autres aéroports de taille moyenne qui seront à moins de 2h30 d'un nœud d'un hub aérien. C'est un coup dur pour l'attractivité de ces territoires, pour les sièges sociaux des grandes entreprises en région qui ont évidemment besoin d'être connectées au reste du monde. C'est, pour tout dire, la décision la plus jacobine depuis longtemps. Et cela alors même qu'Emmanuel Macron promet d'engager une nouvelle phase de décentralisation et de déconcentration, c'est incompréhensible.
Oui, mais Nicolas, Lyon, Bordeaux, ce n'est qu'à 2 heures de train de Paris.
Oui, donc pour aller à New York ou Pékin avec une compagnie qui décolle d'Orly, vous prendrez le train jusqu'à Paris, puis le métro, le RER ou un taxi, enfin, vous finirez dans l'avion. On va vite comprendre que ce sera plus simple de passer par Londres ou Amsterdam. C'est très malin, cette décision d'envoyer du trafic passager vers l'étranger.
En tout cas, sur les petites lignes intérieures, les concurrents d'Air France seront aussi interdits de vol.
Oui, c'est formidable. C'est ça l'État omnipotent. D'un côté, il est actionnaire d'Air France et il octroie une aide bienvenue de 7 milliards d'euros. Et puis, il met son costume de puissance publique et il empêche les autres compagnies de faire ce qu'il a interdit à Air France. Ça promet sûrement quelques contentieux intéressants. Et justement, Mathieu, à propos de conflits, lorsqu'on aura supprimé toute liaison aérienne intérieure entre des villes comme Lyon et Paris, Paris et Bordeaux, Nantes, Strasbourg, quand tout reposera sur la SNCF, à qui on aura donné un monopole de fait des transports publics, on aura alors offert à la CGT un gigantesque pouvoir de bloquer le pays. Bon, ben ça doit être ça, ce qu'on appelle l'écologie sociale.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins dans la matinale d'Europe 1, juste avant le journal de 8h. Il est 7h56, dans quelques toutes petites secondes, la météo, Laurent Cabrol, et le journal justement avec François Geffrier.